Donc on va commencer. Bonjour à tous. Donc je vais commencer évidemment par remercier Jean-Marie de me donner l'occasion de venir aujourd'hui ici dans ce Collège de France très prestigieux pour vous parler de chimie théorique combinatoire. Et si vous le permettez, je vais rajouter un gros point d'interrogation au titre très ambitieux de cet exposé. Parce que comme vous allez le constater au cours de ma présentation, je ne suis pas une inconditionnelle des méthodes de chimie théorique combinatoire à l'aveugle. D'abord par ma culture scientifique, la chimie théorique française n'est pas une chimie théorique du combinatoire, et aussi par conviction, parce que je pense que les méthodes qui couplent théorie et pratique sont en général bien plus efficaces pour la conception de nouveaux matériaux d'électrodes. Alors, s'agissant de théorie et de pratique, Albert Einstein disait que la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et il rajoutait après quelque chose d'assez rigolo, quand on réunit théorie et expérience, eh bien rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste que Albert Einstein et vous montrer comment, en couplant théorie et expérience, on peut avancer dans la compréhension des matériaux, de leurs propriétés, et comment on peut aider et guider les expérimentateurs à synthétiser de nouveaux matériaux d'électrodes pour batteries. Alors, je vais évidemment parvenir sur les nombreux défis sociétaux et environnementaux liés à l'énergie. Jean-Marie Tarascon en a largement parlé au cours de sa leçon inaugurale et dans le cours précédent. Et je vais simplement insister sur le fait que quand on s'intéresse aux demandes et aux ressources d'énergie pour les années 2040-2050, eh bien, on doit faire face ici à un défi considérable qui consiste à rapidement et significativement augmenter les performances de nos batteries au lithium. Donc, en particulier, augmenter les performances des batteries, ça veut dire augmenter la densité d'énergie des matériaux qui sont utilisés aux bornes positives et négatives de vos batteries, mais aussi augmenter le rendement énergétique de votre batterie, puisque vous aimeriez que l'énergie que vous fournissez à votre batterie pour la recharger ne soit pas trop supérieure à l'énergie que votre batterie vous a fournie pendant la décharge. Et évidemment, on voudra essayer d'augmenter la durée de vie de nos batteries, et ça, c'est le nombre de cycles de charge-décharge que vous êtes capable de faire sans perdre en performance. Alors, je vais essentiellement aujourd'hui m'intéresser à l'augmentation de la densité d'énergie des électrodes, donc des matériaux d'électrodes pour batteries, et je vais tenter de répondre au moins partiellement à cette question. Peut-on concevoir des matériaux d'électrodes qui soient performants en termes de densité d'énergie à l'aide de la chimie théorique et éventuellement de la chimie théorique combinatoire? Alors, comme Jean-Marie Tarascon vous l'a rappelé, le terrain de jeu du chimiste pour concevoir un nouveau matériau, c'est le tableau périodique des éléments. Et aujourd'hui, avec près de 100 éléments stables dans ce tableau périodique, eh bien, je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons possibles que vous pouvez faire pour imaginer un nouveau matériau. Et donc, le chimiste, qu'il soit théoricien ou expérimentateur, a un vrai problème d'échantillonnage à résoudre au départ. Donc ce problème d'échantillonnage, il va chercher à le résoudre, comme on vous le disait précédemment, en utilisant des critères de coût, de toxicité, de masse, ou éventuellement des recettes qu'il va tirer soit de sa propre expérience, soit de la théorie, pourquoi pas. Alors je fais une petite aparté ici sur le critère de toxicité, parce qu'on a tendance à écarter beaucoup de matériaux pour des raisons de toxicité au départ. Et en fait, ici, je montrerai comme exemple les airbags de nos voitures et les batteries de nos voitures. Et finalement, les airbags sont construits sur un cristal extrêmement toxique et très explosif, l'azoture de sodium. Et nos batteries sont essentiellement constituées de l'élément plomb très toxique également. Et donc ces exemples nous montrent bien que dès l'instant où on sait confiner de manière sécurisée les éléments toxiques dans un airbag, par exemple, ou que l'on sait traiter a posteriori les déchets pour les batteries au plomb, eh bien, finalement, le critère de toxicité devient presque anecdotique. Alors, ça laisse rêveur, mais c'est pourtant bien la réalité, et je pense que dans cette salle, personne ne se plaindra de l'ombre de vie sauvée par les airbags de nos voitures. Alors, j'en reviens à mon problème de matériaux, et je suis chimiste et je cherche à concevoir un matériau d'électrode, par exemple, basé sur un seul élément, le carbone. Donc, a priori, la problématique combinatoire la plus simple. Donc, on sait évidemment aujourd'hui que le carbone existe sous plusieurs formes cristallines, le graphite, le diamant, les fullerènes ou les nanotubes de carbone. Et on sait que toutes ces formes cristallographiques du carbone, qu'on appelle des formes allotropiques, sont utilisées dans plein d'applications différentes. Mais imaginons, pour la petite histoire, que ces structures cristallographiques n'existent pas et que je cherche à les déterminer de manière combinatoire. Et je suis là, non pas l'expérimentateur, mais le théoricien, ou la théoricienne en l'occurrence. Alors, pour prédire les formes allotropiques du carbone, je vais devoir utiliser des méthodes de calcul qui sont des méthodes évidemment prédictives, déterministes. Et pour cela, on utilise les méthodes de chimie quantique ou de mécanique quantique, et notamment l'équation de Schrödinger, H psi égale psi, qui a été publiée au début du siècle dernier et qui propose une résolution numériquement exacte, c'est-à-dire qu'elle est totalement prédictive et elle permet d'accéder à l'énergie, mais aussi à toutes les propriétés thermodynamique et éventuellement cinétique de n'importe quel système moléculaire ou solide. Donc, dans le principe, évidemment, si on utilise cette théorie, tout devrait être facile et je devrais trouver toutes mes formes allotropiques du graphite, du carbone. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est un petit peu moins idyllique. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque je cherche à déterminer un matériau, j'ai besoin de connaître sa structure cristallographique et pour cela, je vais devoir explorer ce qu'on appelle sa surface d'énergie potentielle, donc l'énergie en fonction de la position des atomes de carbone dans le cristal. Et évidemment, pour faire cela, je vais utiliser dans mon calcul le fait que le cristal, finalement, n'est qu'une réplication d'une unité de maille dans les trois directions de l'espace, et donc je vais imposer un certain nombre de conditions initiales dans mon calcul. Et ces conditions initiales, comme on va le voir, elles vont jouer un rôle de contrainte qui va m'empêcher de faire une exploration complète de cette surface d'énergie potentielle à n dimensions. Et je vais, par exemple, perdre une partie de cette surface d'énergie potentielle quand je vais imposer mes contraintes ou mes conditions initiales dans le calcul. Alors, pour vous rendre les choses un petit peu plus claires, je prends, par exemple, la maille du graphite, la maille du diamant et la maille du fullerène, qui sont toutes les trois constituées de 4 atomes de carbone, 8 atomes de carbone ou 60 atomes de carbone par maille, respectivement. Si dans mon calcul, j'avais imaginé une contrainte où je n'avais mis que 2 atomes de carbone par maille, vous voyez bien qu'en aucun cas, j'aurais pu obtenir l'une de ces formes allotropiques. Si j'en avais considéré 4, j'aurais peut-être effectivement trouvé le graphite, le diamant et le graphite avec 8 atomes de carbone, 8 atomes de carbone par maille, pardon, et puis toutes les formes, si j'avais considéré une maille gigantesque et si j'avais fait une exploration complète de ma surface d'énergie potentielle, qui ici a un nombre de degrés de liberté extrêmement important, donc mathématiquement très difficile à résoudre. J'ai ensuite un deuxième problème, c'est quand je construis une maille pour calculer l'énergie de mon cristal, eh bien, quand je construis ma maille, je vais partir d'une structure initiale, imaginons toujours ma maille, c'est 60 ici, et je veux atteindre la vallée la plus stable en énergie. D'accord ? Donc on va imaginer ici un paysage alpin avec des montagnes et des vallées, et la vallée la plus intéressante sur le plan touristique, c'est la vallée en rouge ici, qui est en fait celle qui a l'énergie la plus basse au niveau, et qui est donc le polymorphe d'énergie la plus stable. Et donc s'il est le plus stable, ça veut dire que c'est celui qui a le plus de chances d'être synthétisé expérimentalement. Alors évidemment, pour explorer ma surface, je vais devoir, si je pars de cette structure initiale, me balader sur la surface pour essayer de tomber dans ce puits. Malheureusement, la plupart des techniques de minimisation de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans nos codes de calcul sont des méthodes de minimisation d'énergie qui permettent de partir d'un point et de tomber très facilement dans la vallée la plus proche, mais qui ne nous permettent pas de sauter facilement les montagnes pour passer d'une vallée à une autre. Et ça, c'est un véritable problème, puisque effectivement, si on veut un génome des matériaux efficace, il faudra être certain de tomber toujours sur les structures les plus stables thermodynamiquement, c'est-à-dire celles qui ont le plus de chances d'être synthétisées expérimentalement. Et pour ça, on a le choix, soit de partir d'une structure initiale qui va être très proche de la vallée qu'on souhaite rejoindre. Mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas cette vallée qu'on souhaite rejoindre. Donc là, il y a une difficulté assez considérable. Ou alors, trouver un moyen plus aérien de survoler la surface pour tomber dans ce puits de potentiel que j'ai représenté en rouge et qui est passé en jaune depuis. Voilà. Alors, les méthodes de material design ou de génome des matériaux qui existent aujourd'hui, il y en a plusieurs types et je vais essentiellement vous parler de deux d'entre elles. Ces méthodes, elles vont permettre d'échantillonner la surface d'énergie potentielle pour essayer de se rapprocher au plus près de la vallée qu'on souhaite atteindre pour trouver le matériau qui aura le plus de chances d'être synthétisé expérimentalement. Alors, elles sont de deux types, très, très différentes dans leur philosophie. Le Material Genome Project, qui a été développé au MIT de Boston par Gerd Seder et ses collaborateurs, et dont les premiers papiers relatifs aux matériaux pour l'énergie sont apparus dans les années 2010. Et puis la méthode à droite USPEX, qui a été développée à l'Université de New York par Atem Oganov et qui propose une vision totalement différente. Alors à gauche, la méthode du MIT fait parler l'expérience, c'est-à-dire qu'elle cherche à générer des populations structurales les plus proches possibles du puits qu'elle souhaite atteindre en utilisant ce qui existe, c'est-à-dire en faisant parler l'expérience. Et ce qui existe aujourd'hui, ce sont des bases de données. Et l'ICSD en particulier, c'est la base de données qui regroupe toutes les structures cristallines de tous les matériaux déjà synthétisés. Donc, Gerd Seder fait parler l'expérience pour essayer de se rapprocher au plus près de la vallée qu'il souhaite atteindre. En revanche, Atem Oganov, lui, va utiliser une construction de ces mêmes populations à l'aveugle, sans aucun a priori structural et de manière totalement aléatoire. Donc lui, il va partir de montagnes beaucoup plus éloignées du puits de potentiel qu'il cherche à atteindre, mais de ce fait, il va pouvoir tomber dans des puits de potentiel intéressants et découvrir des phases plutôt exotiques, ce que la première méthode ne nous permettra pas de faire. Alors je prends par exemple, pour vous illustrer ces deux méthodes, l'oxyde de fer. Donc je cherche à compliquer un peu le problème, je suis passée du graphite à l'oxyde de fer, donc je veux mélanger du fer et de l'oxygène pour savoir si les matériaux cristallins qui existent à base de fer et d'oxygène peuvent être des matériaux intéressants pour les batteries au lithium. Et bien dans ce cas-là, la méthode de Gerd Seder va interroger les bases de données et elle va utiliser des algorithmes probabilistes qu'on appelle des algorithmes bayésiens, qui sont utilisés aujourd'hui dans les réseaux de neurones en particulier, et elle va construire une population de structures qui contiendra soit effectivement du fer et de l'oxygène, mais elle va aussi sortir de la base de données d'autres structures, finalement, qui contiennent non pas le fer et l'oxygène, mais d'autres éléments ici, assez proches du fer. Et si elles ont des structures différentes de celles de l'hématite, par exemple, eh bien, elles vont être considérées comme potentiellement probables pour l'oxyde de fer. Donc il va, grâce à ces algorithmes bayésiens, attacher des probabilités différentes sur chacune de ces structures et essayer ensuite de les résoudre par la chimie quantique. Atem Oganov, lui, avec sa méthode USPEX, va utiliser, sans a priori structural, comme je le disais, tout simplement tous les réseaux cristallographiques qui existent, cubiques, hexagonales, trigonales, monoclinique ou triclinique, pardon, et il va construire de manière totalement aléatoire des structures à base d'oxygène et de fer en remplissant les sites cationiques de ces structures et anioniques, bien sûr. Évidemment, ces deux méthodes passent ensuite par la moulinette de la mécanique quantique et par l'exploration des surfaces d'énergie potentielle pour finalement atterrir toutes les deux sur, on l'espère, le même polymorphe et le plus stable. Alors, comme je vais rapidement synthétiser ce que je viens de vous dire au niveau des performances, et simplement pour vous dire ici que ces méthodes, finalement, proposent un échantillonnage de la surface d'énergie potentielle. Et évidemment, on va parler de leurs performances en termes de coûts numériques et des structures qu'elles sont capables de découvrir. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, la méthode de droite va nous permettre d'échantillonner de manière beaucoup plus complète l'espace des configurations, et elle pourra tomber sur des structures exotiques, comme je le disais, mais par contre, le coût numérique est évidemment assez énorme, puisqu'il y aura autant de calculs quantiques à faire, et donc très coûteux, que de structures à explorer. Dans le cas de la méthode de Gerd Seder, j'ai rajouté un petit vert entre parenthèses ici, attaché au rouge pour l'échantillonnage de la surface d'énergie potentielle, parce que, évidemment, vous comprenez bien que si cette base de données est totalement complète, et on peut espérer en tout cas, pas qu'elle soit complète, mais qu'elle augmente en quantité et en données au fil des années. Et donc forcément, plus cette base de données sera complète, et plus l'échantillonnage de Gerd Seder deviendra intéressant. Et donc il est évidemment très important de coupler ces deux méthodes, parce que toutes les structures ici qui peuvent être découvertes, tant qu'elles ne sont pas synthétisées, elles ne rentreront pas dans cette base de données, et donc elles ne viendront pas compléter cette base de données. Alors, enfin, pour finir sur ces méthodes, j'ai montré, et je ne sais pas si vous l'avez compris, que ces méthodes ne sont finalement pas autre chose que des méthodes de prédiction structurale pour une composition chimique donnée. Et ça, évidemment, elles sont basées sur des algorithmes très intelligents et elles permettent d'échantillonner très clairement l'espace des, l'espace des phases et de parcourir la surface d'énergie potentielle de manière très efficace. Elles sont donc très utiles pour découvrir de nouveaux matériaux, mais le problème, c'est que là, je vous tire un transparent que j'ai volé sur la présentation de Geert Seder, présentation qu'il a donnée ici même il y a 2 ans lors de la chaire annuelle de Jean-Marie Tarascon, développement durable. Et ce qui est représenté sur cette figure, c'est le nombre d'oxydes de métaux de transition découverts chaque année et donc qui viennent alimenter cette base de données ICSD. Et comme vous le voyez ici, au niveau théorie, lui se targue d'avoir découvert en un an tous ces oxydes. Donc évidemment, vous voyez que la découverte de nouveaux matériaux, au niveau de la théorie, c'est effectivement très performant. Mais le problème, c'est qu'il reste maintenant à synthétiser ces matériaux, puisqu'ils n'auront une réalité, ou une réalité aux yeux de l'expérimentateur, à partir du moment où ils auront été synthétisés. Mais le vrai problème que je soulève ici, c'est que parmi tous ces matériaux, une fois qu'ils seront synthétisés, lequel d'entre eux aura la propriété qui nous intéresse ? Et là, on met le point sur un des grands défauts des méthodes de recherche de prédiction structurale et de matériel génome, c'est que si on cherche la structure avant de chercher la propriété, eh bien on fait beaucoup de calculs pour pas grand-chose. Alors, comment optimiser tout ça ? Eh bien, ici, je cherche à développer un génome des matériaux qui va me permettre d'optimiser d'abord la propriété, de rechercher d'abord la propriété, qui ici, par exemple, est la densité d'énergie de mon matériau. Donc, comme Jean-Marie Tarascon vous l'a montré, la densité d'énergie d'un matériau, elle s'écrit comme l'intégrale du potentiel multiplié par la capacité, c'est-à-dire que c'est l'air sous cette courbe, potentiel ici, capacité là. Et en fait, cette densité d'énergie, finalement, elle est tout sauf une fonction d'une structure ou d'une composition chimique. Elle est en fait fonction de la réponse électronique et structurale du matériau à une variation de composition en lithium. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, pour optimiser cette propriété, on va chercher évidemment à mieux la comprendre. Alors, je cherche à partir d'un matériau d'électrode, ici, qui est vide de lithium, et je cherche à mettre beaucoup de lithium dans cette structure. Et comme vous le disait Jean-Marie, je vais mettre beaucoup d'ions lithium. Je vais donc chercher des structures cristallines plutôt ouvertes. Mais avec ces lithium plus, je fais évidemment arriver des électrons. Et mes électrons vont arriver dans ce qu'on appelle la structure électronique du matériau, donc du cristal. Et cette structure électronique, si elle a peu de niveaux électroniques accessibles pour accepter ces électrons, ben évidemment, le matériau aura beau être bien d'un point de vue structural. Si au niveau électronique, il n'est pas capable d'accepter les électrons, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va chercher à essayer d'optimiser la propriété en regardant à la fois les aspects structuraux et les aspects électroniques. Et pour ça, on va voir que la solution, finalement, pour comprendre et améliorer les propriétés des matériaux, c'est la solution, elle se trouve dans ce que je vais appeler, dans la suite de mon exposé, l'entité redox. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entité redox ? L'entité redox, ce n'est pas autre chose que l'entité microscopique qui peut être un atome ou un groupe d'atomes, qui va gouverner la propriété macroscopique qu'on cherche à optimiser pour le matériau d'électrode parfait. Alors, en chimie quantique, on peut résoudre l'équation de Schrödinger pour les molécules, et puis on peut aussi le résoudre pour les solides, c'est-à-dire qu'on va utiliser et on va chercher les solutions électroniques et l'énergie électronique d'un système dans un potentiel périodique, puisque le cristal est, je le répète, une réplication de l'unité de maille dans une, deux ou trois directions de l'espace. Alors, on a quelque chose de très intéressant, un théorème très intéressant qu'on utilise toujours en chimie quantique des matériaux, c'est le théorème de Bloch, qui est arrivé quasiment en même temps que l'équation de Schrödinger, un petit peu après évidemment, et qui permet de faire des liens directs entre les propriétés macroscopiques du matériau et les propriétés microscopiques de l'unité de maille. Il permet aussi de faire des relations étroites, comme Jean-Marie vient de vous le montrer, entre la structure et les propriétés d'un matériau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce théorème de Bloch ? Je vais essayer rapidement de vous donner quelques-uns des concepts que je vais utiliser dans la suite, avant de les appliquer, évidemment, à des matériaux réels. Alors, le théorème de Bloch, c'est quoi ? Je cherche donc à reproduire la structure électronique de mon cristal à partir de la structure électronique de ma molécule. Alors, en fait, le cristal, ici, j'ai représenté un cristal unidimensionnel. Le cristal, on peut le considérer comme une molécule géante. Si je prends, par exemple, le plus simple cristal qui soit, c'est-à-dire la chaîne infinie HN, l'unité de maille contient un atome d'hydrogène qui, lui, porte une orbitale, qu'on appelle 1s ici, pour ses propriétés de symétrie sphérique, et un électron. Donc, si je veux construire mon cristal, je peux simplement construire mon cristal en combinant 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis une infinité d'atomes d'hydrogène collés les uns aux autres. En chimie moléculaire, on sait que lorsque deux atomes d'hydrogène interagissent entre eux via leur orbital 1s, ils vont former un niveau qu'on va appeler liant, qui contribue à renforcer la liaison, comme son nom l'indique, et qui est bas en énergie, et puis un niveau antiliant, qui lui est, comme son nom l'indique aussi, défavorable pour la liaison quand il est occupé par des électrons. Et comme vous le voyez ici, la molécule H2 est plus stable que H plus H, puisque les deux électrons qui étaient initialement à cette énergie-là dans l'atome d'hydrogène, eh bien, sont maintenant stabilisés dans la molécule H2. Donc, si je vais jusqu'à la bande, eh bien, je vais construire ici ce qu'on appelle une bande d'énergie, qui est un continuum d'état électronique occupé ou vacant. Et la largeur de cette bande, elle va être directement proportionnelle aux interactions qu'on appelle recouvrement entre les unités de maille, donc entre H et H, ici, dans le cas de la chaîne HN. Le niveau de Fermi, c'est le dernier niveau occupé dans cette bande d'énergie. Alors, de manière assez intéressante, on se dit que si on utilisait la chaîne HN comme matériau d'électrode et qu'on rajoutait du lithium entre les chaînes, eh bien, on pourrait faire une réduction ou une oxydation électrochimique. Si je rajoute des électrons à mon système, vous voyez que je commence à occuper des niveaux qui sont des niveaux antiliants, donc je vais défavoriser la liaison, je vais déstabiliser la liaison et l'allonger. Si j'oxyde ce même matériau, eh bien, je vais effectivement vider des niveaux qui sont plutôt liants, donc plutôt favorables à la liaison. Donc une oxydation ou une réduction de l'entité redox H ici va déstabiliser la structure. Donc on va chercher évidemment des systèmes qui naturellement auront une largeur de bande relativement faible, de façon à ce que lorsqu'on remplit ou vide cette bande d'énergie, on ne va pas déstabiliser trop en énergie la structure et conserver donc cette structure au cours de la lithiation ou de la délithiation. Donc ça, c'est la première règle qu'on va chercher à suivre, isoler les entités redox les unes des autres pour garantir une certaine stabilité structurale aux matériaux qu'on souhaite utiliser comme matériaux d'électrode. Alors, il y a un deuxième, il y a une attention un petit peu particulière à donner ici, c'est que si vous rendez très très faible l'interaction entre les deux atomes d'hydrogène ou que vous donnez une largeur de bande très faible ici à votre bande, ce qui risque de se passer, comme au niveau moléculaire, c'est que les électrons ici, au lieu de s'apparier, ça coûte de l'énergie à deux électrons de s'apparier et ça coûte une énergie qu'on appelle U, eh bien les électrons vont préférer parfois, quand les deux niveaux liants et antiliants sont très peu différents en énergie, eh bien les électrons vont préférer ne plus s'apparier pour relaxer ce terme U et donc occuper les deux niveaux ici. Et dans ce cas-là, au niveau de la structure électronique du cristal, ce qu'on va avoir, c'est que cette bande-là, elle va être coupée en deux. Toute la partie de gauche va être occupée par des électrons up, toute la partie de droite par des électrons down, et là, cette partie-là sera vide. Et donc, votre système ici va gagner en énergie, mais vous allez ouvrir un gap d'énergie entre la bande occupée et la bande vacante, et ce gap d'énergie, il sera directement proportionnel à l'énergie d'appariement de deux électrons, donc à la corrélation électronique ou la répulsion électron-électron. Alors maintenant, je généralise très rapidement au cas le plus compliqué, un cristal tridimensionnel qui est basé maintenant sur une unité de maille beaucoup plus complexe que l'hydrogène. Prenons une molécule AB qui va avoir plusieurs niveaux électroniques et plusieurs électrons. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir un éclatement des niveaux d'énergie de la maille que je vais appeler un éclatement proportionnel aux interactions intra-maille. Et cet éclatement-là, quand je vais commencer à faire mes bandes, j'ai deux cas de figure. Le premier cas de figure où la largeur de mes bandes n'excédera jamais la différence d'énergie entre deux niveaux consécutifs de la maille, à ce moment-là, vous verrez que les propriétés du cristal seront directement issues de la propriété d'un niveau électronique de la maille, alors que dans le cas où je vais augmenter les interactions entre les mailles, mes largeurs de bande ici excéderont de loin la différence d'énergie entre deux niveaux consécutifs de la maille, et cette fois-ci, je vais pouvoir avoir des recouvrements de bandes et des transferts électroniques ici de la bande rouge vers la bande bleue pour avoir un niveau de Fermi ici qui tombe à l'intérieur de deux bandes d'énergie. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la nature de ces bandes, c'est la nature de l'entité redox, et elle va nous permettre de contrôler le potentiel. Le nombre de ces bandes, par contre, va nous permettre de contrôler la capacité. Alors, je vais juste terminer les aspects de concept et d'outils en vous montrant maintenant ce que sont ces niveaux dans la maille. Donc, on a deux catégories de liaisons dans la chimie. On va des liaisons covalentes jusqu'aux liaisons ioniques, comme l'a montré Jean-Marie. Et nous avons donc les liaisons iono-covalentes qui sont, comme je le disais, avec HN, on a deux orbitales ici qui vont interagir entre elles, mais à la différence de HN, les deux orbitales ne sont pas à la même énergie. L'élément B, ici, est plus électronégatif que l'élément A, c'est-à-dire que son orbitale est plus basse en énergie que celle de l'atome A. Eh bien, quand je vais mélanger ces deux atomes pour former la molécule AB, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une orbitale liante ici qui va avoir un poids, évidemment, sur l'orbitale 1s de A et 1s de B, mais un poids plus important sur B. Ce qui veut dire qu'on polarise les électrons vers B lorsqu'on mélange A et B, B étant plus électronégatif que A. De même, dans l'orbitale antiliante, ici, on aura un poids supérieur à l'orbitale 1s de A par rapport à B. Bon, on retient en fait que les stabilisations ici, E+, et déstabilisations E- sont directement proportionnelles au recouvrement au carré et à la différence d'électronégativité entre les éléments. Et ça, c'est très facile de savoir et de prédire quelle va être la nature de la liaison chimique quand on connaît l'électronégativité relative des éléments qu'on mélange. Évidemment, si je pousse l'électronégativité de B jusqu'à une valeur énorme par rapport à celle de A, eh bien, cette fois-ci, je n'aurai plus du tout d'interaction et je vais avoir un transfert d'électrons total de l'atome A vers l'atome B. Je vais former une liaison parfaitement ionique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux niveaux d'énergie ici sont les niveaux d'énergie qui vont, a priori, accepter les électrons quand on va faire une lithiation électrochimique, donc rajouter du lithium plus et des électrons. Eh bien, ce niveau ici sera, l'entité redox dans ce cas-là sera l'entité AB, c'est-à-dire que l'entité redox sera une liaison, alors que dans ce cas-là, l'entité redox sera un atome. Donc, ça veut dire que la bande d'énergie qui était issue de ce niveau-là, eh bien, cette bande d'énergie, elle peut porter un caractère soit atomique, soit moléculaire, en fonction de l'alliance des éléments A et B qu'on aura voulu faire dans ce matériau pour l'unité de maille. Et ici, on a une notion de dureté chimique, c'est-à-dire que la dureté chimique va faire référence à la variation d'énergie du système AB en fonction du nombre d'électrons qu'on va lui rajouter. Eh bien, plus le système sera dur, c'est-à-dire plus ces électrons seront localisés, c'est le cas de la liaison ionique, eh bien, plus le potentiel chimique de A dans AB va être différent du potentiel chimique de A isolé. Et donc, le potentiel, je vais essayer de vous montrer qu'il est un petit peu lié à cette dureté chimique dans la suite de mon exposé. Retenez simplement ici que lorsque je fais un transfert de charge très faible entre A et B parce que la différence d'électronégativité entre A et B est faible, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel chimique de l'élément A isolé va être quasiment le même que le potentiel chimique de A dans la molécule AB. Dans une liaison très ionique, ça sera très différent. Alors, évidemment, le nouveau génome, le génome des matériaux qu'on voudrait français dans le réseau de stockage électrochimique de l'énergie, ben c'est un génome complètement différent des précédents qui viserait d'abord la propriété avant la structure et qui construirait à la manière d'un puzzle une unité de maille qui porterait la propriété ou le gène de la propriété que l'on cherche et qui, par assemblage, nous permettrait d'arriver à la propriété macroscopique du matériau que l'on cherche à optimiser. Alors, évidemment, nous allons utiliser les trois grands concepts que je vous ai exposés avant, c'est-à-dire le contrôle de la structure en isolant les entités redox, le contrôle du potentiel en choisissant la nature de la bande d'énergie et le contrôle de la capacité en choisissant le nombre de bandes qui vont être impliquées dans les processus redox lors de la lithiation électrochimique. Alors, sommes-nous face à un rêve ou une réalité? Je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, en 2013, on est un petit peu entre les deux. Et ce qui est clair, c'est que, toujours le même, Albert Einstein disait que l'expérience constitue la seule source de connaissances réelles. Je pense que Jean-Marie Tarascon ne le contredira pas. Et donc, forcément, je ne veux pas me fâcher avec Jean-Marie Tarascon, alors je vais essayer de montrer que d'abord, il faut utiliser l'expérience et la coupler à la théorie pour éprouver les modèles du théoricien, voire les valider. Et puis ensuite, on pourra commencer à parler d'aller au-delà de l'expérience pour proposer des nouveaux matériaux, des nouveaux mécanismes redox et éventuellement des nouveaux concepts qui viendront alimenter nos connaissances et nous permettre d'aller toujours plus loin. Alors, je vais focaliser maintenant une grande partie du reste de mon exposé sur le couplage théorie-expérience et je vais essayer d'utiliser tous les petits concepts simples que j'ai essayé de vous donner précédemment pour vous montrer comment le théoricien lit le potentiel et la capacité et comment parfois il le lit différemment de l'expérimentateur. Alors, je reprends l'effet inductif qui a été proposé par John Goodenough en 1997 pour augmenter le potentiel des oxydes et passer, donc, comme Jean-Marie vous l'a exposé, pour passer à des systèmes XO4, c'est-à-dire des ligands. On va substituer le ligand oxygène ici par des ligands XO4 avec X qui peut être du silicium, du phosphore, du soufre. On n'a pas fait le chlore jusqu'à présent. Et en fait, ce que John Goodenough proposait dans son papier, c'est que si on cherche à augmenter le potentiel redox du couple fer de fer 3 dans tous ces oxydes, phosphates ou sulfates de fer, eh bien, il faut simplement augmenter la covalence de la liaison XO. Alors, que dit la théorie par rapport à ça, l'expérience, pardon? Eh bien, l'expérience dit effectivement que ça marche, puisque comme vous le voyez ici, le LFP, LiFePO4, donc le phosphate de fer lithier, a bien un potentiel ici qui est à 3,45 par rapport à inférieur à 3 pour les oxydes. Et puis, le LiFeSO4F, donc le, non pas le fluorophosphate de fer, je crois, mais le phosphate, bon, je ne sais plus, mais ce n'est pas le fluorophosphate de fer. Le fluorosulfate de fer, ici, il se trouve à 3,6 volts par rapport à cette première phase. Donc, quand on utilise un élément X plus électronégatif, S, le soufre, que l'élément phosphore ici, on abaisse le potentiel. Mais l'expérience nous montre aussi que ça ne marche pas toujours. À savoir, ici, je représente le LiFeSO4F et puis un autre polymorphe LiFeSO4F. Donc, deux structures différentes pour ces deux systèmes. Et pourtant, même ligand, et pourtant pas même potentiel. Donc cette théorie de John Goodenough, elle marche, mais elle ne marche pas toujours. Alors pourquoi ne marche-t-elle pas toujours? On va regarder ce que dit la théorie. Donc je reprends les oxydes, je pars d'oxyde de fer. Les oxydes de fer sont généralement constitués d'entités octaédriques, fer O6, dans leur unité de maille. Donc fer O6, je prends les orbitales du métal, toujours la même chose, une orbitale de l'oxygène qui est plus électronégative que le métal. Je vais former une orbitale liante, une orbitale antiliante. Et comme vous le voyez ici, cette orbitale, elle est antiliante parce que j'ai un recouvrement négatif entre l'orbitale D du fer et les orbitales P des oxygènes. Je forme maintenant le polyanion XO4. Donc je vais mélanger l'oxygène ici avec un élément X qui est moins électronégatif que lui. Et à ce moment-là, je forme une liaison liante et une orbitale antiliante. Et puis maintenant, si je veux coupler le fer non plus à des oxygènes, mais à des XO4, ce que je vais faire, c'est que je vais faire interagir mon orbital du métal avec les orbitales de l'oxygène du ligand XO4 et ces orbitales de l'oxygène, comme vous le voyez ici, elles sont bien plus basses que celles de l'oxygène libre. Et de cette manière, l'orbitale antiliante, je vous rappelle que je vous avais donné ici une petite règle qui est de dire que le delta E moins ici est proportionnel au recouvrement sur delta E. Eh bien, si vous avez exactement le même recouvrement entre à gauche et à droite, eh bien, le delta E, par contre, lui, est beaucoup plus grand ici que là. Et donc, vous allez abaisser ce niveau antiliant de l'entité XO4. Donc, l'oxygène ici n'a quasiment plus de poids pour faire une interaction antiliante avec l'orbitale du métal. Dans le cas de droite, j'ai bien une entité redox qui est la liaison métal-ligand, puisque comme vous le voyez, vous avez un poids équivalent sur le métal, enfin pas tout à fait équivalent, mais un poids relativement proche sur les orbitales du métal et de l'oxygène. À gauche, par contre, le poids de l'oxygène dans cette orbitale est très faible, et à ce moment-là, on va avoir tendance à isoler le métal électroniquement de ces ligands. Alors si je résume, deux choses à se souvenir, enfin, dont on doit se souvenir. Plus le ligand est acteur et plus les orbitales de ce ligand seront importantes dans l'orbitale redox que je suis en train de regarder, plus j'abaisse plus j'augmente l'électronégativité de mon ligand et plus je baisse le poids des orbitales du ligand dans l'orbital redox jusqu'à arriver à des ligands totalement spectateurs. Et dans ce cas-là, le niveau redox qui va accepter les électrons du lithium plus, eh bien, seront des niveaux purement métalliques, alors qu'ici, ce seront des niveaux métal-oxygène. Alors ça, ça veut dire que, effectivement, comme le disait Goudenhoff, les ligands XO4 vont avoir un effet local sur les orbitales du fer. Il va augmenter le caractère ionique de la liaison métal-oxygène et puis vont abaisser, ces ligands, les niveaux redox du fer. Alors, en ce sens-là, on peut se dire, ben voilà, on comprend maintenant pourquoi ça marche, puisque j'ai abaissé les niveaux du fer ici. Mais la question qu'on peut se poser, et que moi, en tout cas, je me pose en tant que théoricienne, c'est est-ce que la seule position des niveaux d'énergie du fer dans ces matériaux suffit pour déterminer et pour prédire le potentiel? Bien, en fait, si c'était le cas, je pourrais donc considérer que, puisque les niveaux électroniques du fer sont les seuls qui gouvernent le potentiel, alors comment je peux définir les niveaux électroniques du fer? Ben, simplement en calculant le champ de Madelung ressenti par le fer dans son environnement de ligand. Et qu'est-ce que c'est que le champ de Madelung? C'est que votre métal il va être chargé plus, les ligands vont être chargés moins. Et si on regarde des interactions basiques électrostatiques entre des charges plus et des charges moins, eh bien plus le ligand sera électronégatif, plus la charge portée par le fer sera haute, puisque les ligands deviendront spectateurs, et donc plus le champ de Madelung sera important. Alors j'ai cherché dans la littérature tous les couples fer-2-fer-3 avec différents ligands XO4, et puis ce que vous voyez ici, c'est que quand je calcule mon champ de Madelung, on ne peut pas dire que ce soit très convaincant, et je n'ai pas une très bonne corrélation entre le potentiel que j'ai estimé avec ma constante de Madelung et le potentiel expérimentalement mesuré. J'irai plus loin, simplement pour vous dire que si effectivement la seule position des niveaux électroniques d'une entité permettait de gouverner le potentiel, eh bien à ce moment-là, le graphite lithier, qui est basé sur du carbone, eh bien je le placerai ici sur mon diagramme, alors que je sais très bien que le graphite a un potentiel très faible par rapport au graphite lithier, un potentiel d'intercalation vis-à-vis du lithium très faible par rapport aux oxydes ou aux phosphates et sulfates. Alors, pour comprendre tout ça, il va falloir que je revienne à la définition du potentiel. Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel, il s'écrit comme... il est directement lié à l'énergie, l'enthalpie libre de réaction qui transforme le lithium plus métal O ici en LiMO. Je fais une réaction d'insertion, un oxyde de métal réagit avec le lithium pour donner du LiMO. Un delta RG en physique, donc une enthalpie libre de réaction, ça doit être négatif si vous voulez que la réaction puisse être spontanée et que la phase LiMO soit synthétisée ou soit obtenue par réaction de Li avec MO. Le potentiel, il se lit simplement ici sur cette courbe, c'est-à-dire il est égal à l'inverse de cette pente. Et N ici, c'est le nombre d'électrons que vous allez échanger. Donc rien qu'avec un petit diagramme comme ça, vous voyez déjà que si vous voulez avoir un haut potentiel, vous allez devoir déstabiliser franchement la phase délithier par rapport à la phase lithier, ou alors stabiliser franchement la phase lithier par rapport à la phase délithier. Et ça, ça revient au même. Quand vous avez une grande différence d'énergie entre deux phases, lithier et non-lithier, il y en a forcément une qui n'est pas très stable, et en général, c'est la phase délithier. Donc attention, si on veut augmenter le potentiel d'une batterie et augmenter simplement ce potentiel à l'aveugle, eh bien, on va aller vers des problèmes de stabilité structurale. Alors, si je veux faire le comparatif de ce petit schéma avec celui de John Goodenough, eh bien, je place le lithium ici, j'enlève le MO que je soustrais ici, et ce que vous voyez, c'est que les niveaux électroniques qui vont me permettre de connaître la différence d'énergie entre le potentiel de ma batterie, ce n'est pas directement la différence entre les niveaux du lithium et les niveaux de la phase lithier, mais les niveaux du lithium et la différence d'énergie entre la phase lithier et la phase délithier. Et donc là, on retrouve un petit peu la notion de dureté dont je vous parlais précédemment, parce que si vous prenez un matériau avec un métal chargé plus et ses ligands, chargés moins autour de lui, quand vous allez rajouter un lithium à cette structure, vous allez rajouter des lithium plus à certains endroits de la structure et un électron, et cet électron, il va aller sur le métal ou il va aller sur la liaison métal-ligand. Donc, dans ce cas-là, l'électron va se localiser sur le centre métallique. Dans ce cas-là, l'électron va se délocaliser sur une entité redox plus ou moins grande, soit une liaison, soit plusieurs. Et ça, du coup, ça va donner des différences d'énergie entre la phase des lithiers et la phase lithiée, très grande dans ce cas-là et très faible dans ce cas-là. Alors, ce qu'on a montré dans mon équipe ces derniers temps, c'est que finalement, on pouvait quand même sauver l'histoire de Goudenhoff. Donc, M. Goudenhoff est évidemment un éminent chercheur particulièrement intelligent. Donc, je n'avais pas pour but de vous démontrer qu'il avait tort. Mais en fait, il a beaucoup caché sous le tapis un certain nombre de poussières qui, du coup, amènent certains expérimentateurs aujourd'hui à réfléchir en termes de niveau électronique pour d'autres matériaux que des matériaux très inductifs, de manière un petit peu erronée. Et ça, ça amène beaucoup de problèmes dans la littérature. Souvent, on lit des choses qui sont tirées de Goudenhoff, mais qui, malheureusement, n'ont pas compris tout ce qu'il y avait sous le tapis de M. Goudenhoff. Alors ici, dans le cas des ligands spectateurs, c'est-à-dire quand l'électron vient sur le centre métallique et que le ligand donc, ne chope pas de charge et que le lithium plus vient occuper un site cationique vacant, eh bien, dans ce cas-là, on peut effectivement écrire que le potentiel n'est pas directement proportionnel au champ de Madelung du métal, mais également au champ de Madelung du lithium. Et cette petite partie-là avait été oubliée par John Goudenhoff, et si maintenant je reviens sur les phases que je vous avais présentées avant, qui ont toutes différentes structures, différents ligands et différentes stoichiométries en lithium, que je calcule mon champ de Madelung sur le métal et sur le ligand et que je les somme, eh bien cette fois-ci, la corrélation est bien meilleure qu'avec le champ de Madelung du métal seulement. Et donc cette corrélation, elle a été obtenue par des calculs DFT. Donc des calculs DFT, c'est très lourd. Vous utilisez des clusters de PC et vous avez des calculs en parallèle qui se font sur tous les PC et ça dure environ 15 heures CPU par point. Mais si on utilise simplement le fait que notre liaison est très ionique, alors à ce moment-là, les charges qu'on calcule par mécanique quantique, on pourrait éviter dans ce cas-là de les calculer et les remplacer par des charges formelles qui sont très familières aux chimistes et qui nous permettent, en une minute chrono, d'obtenir une corrélation tout aussi bonne que la corrélation qu'on obtient par mécanique quantique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, dès lors qu'on a la base de données cristallographique de tous les composés existants dans notre laboratoire, ce qui n'est malheureusement pas mon cas encore, eh bien, on peut utiliser toutes les phases qui existent dans cette base de données cristallo et dire tout de suite aux expérimentateurs lesquelles, parmi toutes celles-ci, ont un potentiel qui peut être potentiellement intéressant pour des applications dans le domaine des batteries. Alors, je vais passer maintenant rapidement au contrôle de la capacité. Et donc, de mon point de vue de théoricienne, l'augmentation de la capacité ne va pas se faire autrement qu'au détriment du potentiel. Alors, pourquoi ça? Donc, je regarde ce que me dit l'expérience. L'expérience, elle me dit, par exemple, dans le cas des fluorophosphates de vanadium ou oxophosphates de vanadium, elle me dit que quand je peux insérer de lithium de 0 à 1 dans cette phase-là, puis de 1 à 2, et effectivement, j'ai doublé la capacité par rapport à ce que j'avais dans les autres électrodes, mais je suis passé de 4,28 en potentiel à 1,80. Dans le cas LIVPO4O, je suis passé de 3,95 à environ 2 volts. Donc, l'augmentation de la capacité ne va pas se faire autrement qu'au détriment du potentiel. Alors, j'ai un autre exemple qui date de plus longtemps, une dizaine d'années, dans lequel, cette fois-ci, vous voyez qu'on arrive à insérer jusqu'à 8 lithiums dans une maille assez petite, et cette fois-ci, on n'est pas dans des phosphates ou dans des sulfates, mais on est dans des liaisons très covalentes, puisque le phosphore est un élément très peu électronégatif, donc très proche du métal, et dans ce cas-là, l'entité redox ici, ça va être vraiment la liaison covalente vanadium-phosphore. Et ici, vous avez jusqu'à 8 lithiums échangés, et donc des capacités qui peuvent être extrêmement fortes, mais un potentiel qui est un potentiel d'anode et non pas de cathode. Alors, si je regarde d'un peu plus près ces matériaux, je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ici j'ai un potentiel de 4,28 volts pour la réaction qui transforme VPO4F en LIVPO4F. Dans ce cas-là, vous êtes sur le couple V4+, V3+. La réaction avec l'oxophosphate de vanadium, elle transforme LIVPO4O en LI2VPO4O pour exactement le même couple redox. Donc là, vous êtes en train de jouer sur le même couple redox. Ces deux matériaux ont presque exactement la même structure, à la différence des positions des ions lithium ici, et pourtant, leur potentiel est extrêmement différent. Alors pourquoi? La théorie, et le combinatoire en particulier, a essayé de répondre à cette question, et si on en juge par le dernier papier sorti de Gerd Seder sur ces processus multi-électrons dans les phosphates, eh bien on s'aperçoit que, caché sous cette courbe ici, on a le LIVPO4F et il trouve 3,8 volts au lieu de 4,28 volts. Donc ça veut dire que la DFT ne peut pas répondre à toutes les questions et qu'effectivement, il manque quelque chose. Alors si on fait parler l'entité redox, on va comprendre pourquoi ces potentiels sont si différents. Si je prends la phase LIVPO4O, je m'aperçois qu'elle est construite sur des octaèdres FeO6 ici, et donc VO6 ici, et les orbitales frontières, donc les orbitales redox de VO6, ce sont trois orbitales que je vous ai représentées ici, dans lesquelles vous voyez que chaque orbital, en bleu pour le métal et en gris pour les oxygènes, fait finalement exactement la même interaction. Cette orbitale, si vous voyez dans l'espace, c'est la même orbitale à quatre lobes que je présente à plat, droite ou face à vous. Et donc, à chaque fois, cette orbitale, elle a des interactions avec quatre atomes d'oxygène autour, quatre ici et quatre ici, et parce que les interactions sont les mêmes, les trois orbitales sont dégénérées. Maintenant, je regarde d'un peu plus près ma structure et je m'aperçois que ma structure, elle est finalement faite de liaisons longues et courtes vanadium-oxygène le long des chaînes. Liaison très courte, c'est ce qu'on appelle une liaison vanadyle ici, de vanadium qui est lié par une double liaison à l'oxygène. Et évidemment, les quatre oxygènes ici qui sont dans le plan équatorial sont des oxygènes qui sont liés à des groupements PO3, donc ce sont les fameux ligands très inductifs PO4. Et bien dans ce cas-là, si je représente les orbitales de ce système, j'en ai une assez basse et deux qui sont beaucoup plus hautes. Pourquoi une assez basse? Parce que, comme je vous le disais, les PO4 jouent le rôle spectateur sur les orbitales du métal, donc leur poids dans l'orbital redox est très faible, dans l'orbital moléculaire. Par contre, ici, j'ai abaissé le poids des phosphates, mais par contre, j'ai gardé un poids très important, voire plus important, sur l'oxygène apical de la liaison vanadyle, V double liaison O. Et dans ce cas-là, ce schéma orbitalaire montre que si je rajoute des électrons et que je fais une réduction électrochimique dans ce système-là, je vais avoir une entité redox qui n'a rien à voir avec un vanadium 4+, mais qui a plutôt largement à voir avec une liaison vanadyle très courte et très délocalisée. Donc ce système-là, finalement, c'est un système mou, un système redox mou. La liaison vanadium-oxygène très délocalisée va représenter quelque chose d'assez mou et donc un bas potentiel. Si je regarde maintenant le LIVPO4F, cette fois, évidemment, les deux atomes de fluor ici, très électronégatifs, et les quatre ligands PO4 connectés au vanadium vont me donner trois orbitales très basses en énergie, beaucoup plus basse que celle de l'oxygène et beaucoup plus basse que celle du cas précédent. Et évidemment, dans ce cas-là, l'entité redox va bien être le vanadium 4+. Le système va être extrêmement dur puisque vous allez localiser la charge apportée par le lithium uniquement sur le métal. Et à ce moment-là, votre ligand il est totalement spectateur et votre potentiel aura des chances d'être très haut. Et en termes de structure de bande, si je fais le bilan de ces diagrammes, l'oxyde, le fluorophosphate et l'oxophosphate, je me rends compte que ici, la bande d'énergie est beaucoup plus haute, tout simplement parce que la liaison vanadyle ici est une liaison très délocalisée et qu'elle a contribué à remonter énormément les niveaux de la bande redox par rapport au lithium. Et évidemment, ici, vous avez satisfait le point 1, vous avez isolé l'entité redox vanadium de manière électronique, et vous avez également contrôlé le potentiel avec des ligands très inductifs. Ici, vous avez isolé les entités redox VO, mais vous n'avez pas utilisé de ligands très inductifs, et donc vous avez un système plus mou, et donc un potentiel plus bas. Donc pour terminer, je passe au système qui a été publié il y a une dizaine d'années maintenant, et qui est le MP4, ici c'est le VP4 que j'ai utilisé. Alors, la structure de ce composé est une structure finalement presque zéro dimensionnelle, puisque dans cette structure, qui est cubique, vous avez les phosphores qui sont au sommet du cube et au centre des faces, et puis finalement, vous mettez un atome de métal ou un atome de vanadium par maille, ici, au centre de la maille, et vous formez des tétraèdres. Et ce que vous voyez, c'est que dans le cristal complet, les tétraèdres vont être isolés les uns des autres, structurellement, non plus électroniquement, mais structurellement. Ils n'auront plus aucune interaction. Et donc, dans ce système-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le ligand oxygène très électronégatif par un ligand phosphore beaucoup moins électronégatif. J'ai une structure électronique moléculaire du tétraèdre MP4 qui est constituée d'orbitales liantes ici, métal ligand. Je les ai représentées en vert et en bleu pour vous montrer que c'est vraiment l'entité, la liaison MP qui est l'entité redox. Ici, les niveaux antiliants, également extrêmement mélangés entre les orbitales du métal et les orbitales du ligand. Puis au centre, des niveaux qui ne sont pas des niveaux liants ou anti-liants par rapport au métal, sont des niveaux qui n'ont pas la bonne symétrie pour interagir avec le métal. Donc ce sont des niveaux qui sont purs phosphores. Et vous allez voir que finalement, ça c'est très intéressant parce que les niveaux phosphores et la bande du phosphore ici en vert va être une bande relativement fixe dans ma structure électronique et elle va me servir de réservoir, de trou ou d'électrons selon où se placera le métal de transition par rapport à cette bande. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si j'enlève les lithiums de cette entité-là, eh bien, je vais oxyder le métal de transition. Quand j'oxyde le métal de transition, j'abaisse ses niveaux électroniques. Le métal de transition n'a pas envie de perdre ses électrons, eh bien, il a tout le loisir de pouvoir en récupérer sur la bande réservoir de phosphore ici. Et c'est ce qu'il fait par un mécanisme qu'on appelle de la donation ligand vers métal. Si maintenant je rajoute énormément d'électrons à ma maille, que je tombe sur l'entité Li11MP4, eh bien, dans ce cas-là, je mets des électrons sur mon métal de transition. Ce métal de transition, eh bien, quand on lui rajoute des électrons, il va se déstabiliser en énergie. Et là, il a tout le loisir, s'il a trop d'électrons et qu'il se sent trop mal avec tous ces électrons, eh bien, de les rétrodonner à la bande de phosphore ici, qui avait évidemment été vidée au préalable par oxydation. Donc vous avez un système de vase communicant comme ça, où votre entité redox, elle va respirer au cours de l'oxydation électrochimique et de la réduction électrochimique. Elle ne va pas être affectée par son environnement puisqu'elle est totalement isolée des autres. Donc chacune d'entre elles peut vraiment respirer comme elle le souhaite pour accommoder la charge des lithium plus qui vient autour d'elle. Donc elle va polariser la densité électronique vers l'intérieur de la sphère de coordination du tétraèdre lorsqu'il y aura peu de lithium autour. Et quand il y aura beaucoup de lithium autour, eh bien le métal va redonner ses électrons au phosphore de façon à ce que le tétraèdre ait une couche externe de charges moins qui viendront compenser les lithium plus dans la maille. Donc cette histoire de vase communicant, c'est vraiment très intéressant parce que ça donne vraiment la notion de flexibilité des ligands qui peuvent jouer le rôle de donneur ou d'accepteur d'électrons pour relaxer le métal de transition qui a trop peu ou pas assez d'électrons. Trop peu ou trop d'électrons, pardon. Ici, simplement, je vous ai représenté la densité électronique qui a été calculée par DFT. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a bien des entités tétraédriques totalement isolées. Et il n'y a pas de densité entre les tétraèdres. Donc, ces tétraèdres sont bien isolés, mais cette fois structuralement. Et donc, ça, c'est important pour avoir une grande bande d'énergie. L'entité redox est très molle et elle a plusieurs niveaux d'énergie, plusieurs bandes d'énergie autour du niveau de Fermi, trois en l'occurrence. Et évidemment, là, ben, j'introduis un nouveau concept qui finalement est un concept qu'on a tiré de nos études par comparaison avec l'expérience, c'est que dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je régénère le degré d'oxydation de mon métal au cours de la réaction électrochimique. Parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais quand on utilise le vanadium et qu'on va de 3 à 11 lithium, on échange 8 électrons avec un vanadium qui n'en a que 5 à donner. Donc un vanadium 5+, on peut lui enlever 5 électrons, mais on n'ira pas lui mettre plus de 5 électrons au retour. Et là, on en échange 8. Donc évidemment, ça veut dire que le ligand est extrêmement impliqué dans la redox, mais c'est par ce système de vase communicant qu'on arrive comme ça à ces résultats. Alors je vais terminer, il me reste un petit peu moins de 10 minutes, donc je vais essayer de terminer, je vais être très décevante parce que j'aurais bien aimé que cet exposé soit beaucoup plus consacré à la deuxième partie ici, aller au-delà du couplage théorie-expérience et de l'expérience pour pouvoir proposer des nouvelles choses. Mais bon, le génome du matériau, j'ai un an de recul sur le génome, un an et demi de recul sur le génome des matériaux. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on a réussi à comprendre au cours de cette dernière année, on va pouvoir commencer à proposer des choses qui pourront être intéressantes au niveau expérimental. Enfin, en tout cas, j'ai espoir. Ce que je voulais simplement rappeler ici, c'est que finalement, si on veut augmenter le potentiel, on va devoir utiliser des entités redox dures. Et les entités redox dures, ce n'est pas forcément des entités redox atomiques. Ça peut être une molécule qui va être très dure, mais ça, il faudra choisir les éléments qu'on va mélanger entre eux. Évidemment, quand on aura une entité redox très dure, on va avoir une très forte localisation électronique dans le matériau et donc une faible capacité et éventuellement une instabilité structurale. Alors ici, si je mets un système d'écluse, entre haut potentiel et haute capacité. Vous voyez que entité redox dur ici, mol ici, localisation électronique, délocalisation électronique, instabilité structurale, mais en revanche, vous avez bas potentiel ici, haut potentiel, basse capacité et haute capacité. Donc tout ça pour essayer de vous convaincre qu'augmenter le potentiel et la capacité en même temps, ça ne va pas être facile. Et avec un système d'écluse ici, ben finalement, l'énergie que vous perdez quand vous avez votre système d'écluse, vous échangez exactement la même quantité d'eau, mais dans une écluse deux fois plus grande que celle-ci, eh bien vous perdez effectivement, au niveau potentiel, vous perdez beaucoup d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais quand même essayer d'être un petit peu plus optimiste et vous présenter quand même des matériaux qui ont effectivement déjà été synthétisés et étudiés, notamment par Jean-Marie, les phases lamellaires dont il vous a largement parlé juste avant, et les phases qu'on appelle les phases NMC, parce qu'elles contiennent du nickel, du manganèse et du cobalt. Alors malheureusement, je ne vais pas répondre à toutes les questions qu'il a posées aux théoriciens, parce que j'ai eu connaissance de son exposé en même temps que vous. Si j'avais su, j'aurais parlé un petit peu plus du manganèse. Mais en l'occurrence, ces phases-là, on a vu qu'elles étaient très intéressantes parce qu'elles permettaient de doubler au moins la capacité des électrodes positives. On a ici un haut potentiel et on a aussi une capacité qu'on peut considérer comme haute ou grande. Le problème, c'est que comme vous le voyez, le potentiel ici a deux plateaux lors de la première décharge, deux plateaux à très haut potentiel, et puis après, pendant les cycles ultérieurs, on voit qu'on a quand même des chutes au cours de la lithiation, des chutes de potentiel au cours de la lithiation. Mais bon, imaginons que ce ne soit pas forcément gênant. Ce qu'on a montré dans ces phases-là, c'est que finalement, on part d'une phase dans laquelle le ruthénium est 4+, et le métal que vous allez mettre avec le ruthénium est également 4+. Vous enlevez un lithium, vous tombez à Li3, Ru5+, métal 4+. On utilise un métal qui peut être électrochimiquement actif ou électrochimiquement inactif. Et puis, après, on a une réaction qui nous permet d'enlever un lithium de plus. Alors, naturellement, le chimiste va considérer que si l'entité M n'est pas électrochimiquement active, eh bien, ça veut dire qu'on va passer d'un ruthénium 5+, à un ruthénium 6+. Alors, en fait, notre système de bande ici, c'est que le ruthénium, ses orbitales 4D sont des orbitales plus basses en énergie que les orbitales 3D des métals de transition de la troisième ligne, ce qui veut dire que finalement, le métal 4D est plus proche des orbitales de l'oxygène, la bande est plus basse, et vous allez avoir un recouvrement de la bande. Donc, si je mets le ruthénium 6+, avec l'oxygène 2- ici, vous voyez que j'ai un chevauchement des bandes et que je vais pouvoir avoir un transfert d'électrons de cette bande-là vers cette bande-là, exactement comme dans le cas métal-phosphore que je viens de vous exposer. Sauf qu'à la différence du phosphore, l'oxygène n'est pas du tout content quand on lui enlève des électrons. Le phosphore, c'est un atome qui est très gros, qui accepte des variations de charge sans être trop mécontent. L'oxygène n'aime pas trop être oxygène moins. Il aime bien être oxygène 2- ou éventuellement former des paires peroxo ici, où les deux oxygènes vont compenser la perte d'électrons par la formation d'une liaison oxygène-oxygène ici. Ce que vous voyez ici, entre là et là, j'ai exactement le même nombre de lithium dans ma maille, mais j'ai un système ruthénium 6+, attaché via une arête à des oxygènes 2-. Et ce qui se passe, c'est que mes oxygènes, quand je commence à leur enlever des électrons ici, ils ne sont pas contents et ils vont chercher à se réorganiser dans l'espace, mais réorganiser aussi leur densité électronique. Et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un mécanisme de couplage réducteur, c'est-à-dire qu'on va casser une des deux liaisons ruthénium-oxygène de ce côté-là et de ce côté-là, et puis on va récupérer les électrons pour former cette liaison-là. Et ça, ça va stabiliser le système pour deux raisons. La première, c'est que O2-, c'est une entité qui est beaucoup plus stable que deux fois O-. Et la deuxième chose, c'est que là, vous avez un ruthénium 6+, au départ, et là, vous avez un ruthénium 5+. Vous avez un petit peu régénéré votre métal, le degré d'oxydation de votre métal de transition. Et c'est ça qui va vous permettre de faire deux échanges d'électrons dans votre maille, dans votre système, au lieu de un, normalement, avec les métaux de transition. Donc ça, c'est vraiment important. Mais contrairement au cas du phosphore que je vous ai raconté précédemment, la bande réservoir de l'oxygène, ce n'est pas du tout une bande fixe. C'est-à-dire que l'oxygène, il a vraiment changé de structure, il a changé sa densité électronique et il a formé des molécules oxygène 2 chargées 2-. Et donc, les niveaux de ces entités peroxo, ils sont là et ils sont là. D'accord ? Donc la bande acceptrice, voilà, la bande réservoir du phosphore, ce n'est pas tout à fait la même chose dans ce cas-là. Mais en tout cas, nos ligands, ils sont acteurs et ils sont flexibles. Et si on arrive à adapter la densité électronique en fonction du taux de lithiation, eh bien on voit qu'on est capable d'échanger pour un même métal avec des hauts potentiels, on est capable d'échanger pas mal d'électrons. Alors, je termine avec ce fameux M. Comment peut-on jouer avec ce deuxième métal dans les oxydes lamellaires de type ruthénium métal ou de type nickel manganèse cobalt? Eh bien, comment je peux jouer avec ces systèmes-là? Eh bien, je vais soit utiliser un métal qui va être totalement inactif d'un point de vue électrochimique, c'est-à-dire que ses orbitales accessibles seront soit pleines et très basses en énergie, soit haute en énergie et complètement vacante. Et donc, tous les processus redox ici n'impliqueront que l'oxygène et le ruthénium. C'est le cas du métal SN4+, d'accord, qui n'a pas d'électron D, enfin, qui a ses bandes de SP complètement hautes ici et vacantes. Et donc, on n'est plus sur les ligands acteurs ou spectateurs. Maintenant, on joue avec l'autre métal, acteur ou spectateur. Je commence à fatiguer. Alors ici, je reprends mon couplage réducteur et je m'aperçois que si effectivement ce métal-là, n'a pas de niveau accessible pour récupérer l'électron qui viendrait du groupement peroxo, eh bien, le deuxième électron il va aller sur le ruthénium ici, qui va devenir 4+. Ça veut dire que quand j'ai un ruthénium 6+, formellement par oxydation électrochimique, je suis capable d'aller jusqu'à un ruthénium 4+, donc d'échanger deux électrons sans échanger de lithium par redox interne. Ça, c'est intéressant, cette redox interne, parce que si vous conservez le potentiel et si vous arrivez à trouver un ligand suffisamment flexible et suffisamment bien placé au niveau, par rapport aux orbitales du métal, et bien vous allez peut-être pouvoir avoir à la fois haut potentiel et haute capacité. Donc, dans le cas où j'utiliserais maintenant un métal qui serait acteur, c'est-à-dire le manganèse, et bien je vois que quand je forme mon entité peroxo, mes deux électrons se repartagent quasiment de manière équitable entre le ruthénium et le manganèse, parce que mes deux bandes d'énergie du manganèse et du ruthénium sont accessibles. Et à ce moment-là, j'ai un manganèse 3+, ici. Et le manganèse 3+, ici, on sait qu'il n'est pas très stable. Qu'il n'est pas très stable en site octaédrique et qu'il est beaucoup plus stable en site tétraédrique dû aux effets Yann-Teller dont Jean-Marie a parlé juste avant. Et donc, effectivement, ce couplage réducteur qui viendrait réduire le manganèse 4+, en manganèse 3+, en fin de charge, donc en fin de délithiation, oxydation électrochimique, eh bien, il serait peut-être à l'origine des passages lamellaires spinels qu'on a dans l'INMC. Et jusqu'à présent, le manganèse, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi le manganèse passe en site tétraédrique dans les NMC, alors que personne n'a jamais imaginé devenir manganèse 3+, dans ces systèmes. Mais dans ces systèmes, s'il y a un couplage réducteur et formation d'entité peroxo, eh bien, effectivement, ça veut dire que le manganèse pourrait être réduit en manganèse 3+, en fin de charge, et qu'à ce moment-là, il serait bien plus content de se trouver dans un site tétraédrique que dans un site octaédrique. Donc ça, c'est vraiment important, parce que ça veut dire que si on veut effectivement arriver à représenter correctement le manganèse, eh bien, si on veut oxyder un manganèse 2+, en manganèse 3+, ou réduire un manganèse 4+, en manganèse 3+, vu que le manganèse 3+ n'est pas, et 2+ et 4+, ne sont pas stables dans les mêmes sites, eh bien, il faudra avoir une structure qui ait tous ces sites côte à côte pour que le manganèse puisse sauter facilement d'un site à un autre et être vu électrochimiquement par les expérimentateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas vu électrochimiquement? Mais simplement parce que si le manganèse n'a pas de place pour se mettre dans un site tétraédrique, n'a pas de site tétraédrique accessible autour de lui, eh bien, ce manganèse il va rester dans son environnement octaédrique. Et cet environnement octaédrique il est très déstabilisant pour un manganèse 3+. Ça veut dire que l'énergie de la phase délithiée, manganèse 3+, elle va être très haute. Et ça, vous ne le verrez jamais parce que la fenêtre de potentiel de vos électrolytes, elle s'arrête à 5 volts. Et au-dessus, il y a le manganèse. Donc voilà, on n'arrivera pas à atteindre le manganèse électrochimiquement si on ne lui donne pas la possibilité de se restabiliser dans le site qu'il préfère quand il est manganèse 3+, à savoir le site tétraédrique. Bon, ici, c'est simplement pour vous montrer que si je prends les feuillets ruthénium éteint oxygène dans le cas des lamellaires ruthénium éteint, eh bien, je m'aperçois que finalement, l'éteint est totalement spectateur, donc là, je peux l'enlever complètement. Et là, vous voyez, vous retrouvez vos entités redox MP4, qui sont ici des ruthénium O6, qui peuvent respirer tranquillement au cours de la délithiation et de la lithiation électrochimique sans être tellement déstabilisé. Et c'est aussi pour ça que l'étain est intéressant à coupler avec le ruthénium, même si d'un point de vue de son poids, ce n'est pas fantastique. Voilà, donc je vais m'arrêter là et conclure sur les méthodes combinatoires qui, je l'espère, pourront, avec l'augmentation des puissances de nos ordinateurs, mais aussi avec une certaine complétude de cette base de données cristallographique, donner des résultats. En tout cas, il faudra qu'on travaille ensemble avec la communauté internationale pour réussir à faire que les concepts que nous, on développe en chimie théorique française non combinatoire et qui sont basés sur des outils très simples et qui nous permettent de dialoguer avec les expérimentateurs, il faudra qu'on arrive à allier nos forces, parce qu'aujourd'hui, avec le défi au niveau énergie qu'on a à relever pour les 40 prochaines années, il n'est pas question de travailler chacun dans son coin. Et donc, la clé est pour moi la synergie théorie-expérience. J'espère que vous l'aurez compris à travers cette présentation. Et je vous ai donné ici quelques-uns des résultats qui concluent mon exposé. Je vais finir par remercier évidemment Jean-Marie Tarascon pour cette invitation, mais pour les nombreuses discussions que nous avons ensemble et nos collaborations toujours très fructueuses. Dominique Larcher et Christian Masquelier, qui sont deux chercheurs avec qui j'ai beaucoup travaillé et beaucoup discuté de ces concepts. Évidemment, Mathieu Sobaner et Mouna Benyaya, qui sont les deux personnes qui développent avec moi le génome des matériaux à la française, et Sébastien Lebègue aussi, qui est en collaboration avec nous sur ce sujet à l'Université de Nancy, et les deux autres personnes de mon groupe, Jean-Sébastien Filliol et Frédéric Lemoigneau, qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette présentation. Et évidemment, je vous remercie, vous tous, pour votre gentille attention.